Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Nous sommes lundi 21 février 2022. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Le déploiement des troupes par l'armée burundaise en République démocratique du Congo se poursuit. Une sélection des militaires et du Monelakure est en cours pour aller renforcer les hommes déjà sur place et pour remplacer les malades et les morts. C'est encore plus compliqué aujourd'hui, plus qu'hier. L'obtention d'un document de voyage à la PAF est un vrai parcours du combattant. Il faut des semaines, voire des mois pour en apercevoir le bout. Encore faut-il avoir corrompu agents et policiers. Nous sommes des Burundais comme tous les autres, avec les droits qui vont avec. C'est ce que rappellent ceux qui ont organisé en Belgique une manifestation pour protester contre les crimes commis par le pouvoir du CNDD-FDD. Le président Évariste Ndayishimiye, qui était également en Belgique, les avait qualifiés d'ennemis de la nation. Et puis en fin de journal, vous aurez droit à une bonne note avec la qualification de l'équipe nationale de football féminin pour la phase finale de la CAN prévue au Maroc en juillet prochain. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une centaine de militaires burundais et des Imbonerakure, dont le nombre n'est pas encore connu, ils sont en train d'être rassemblés par l'armée et le parti CNDD-FDD comme renfort aux troupes présentes en République démocratique du Congo, mais aussi pour remplacer des militaires malades et ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Ces combats qui se déroulent entre les militaires burundais et leurs alliés contre les groupes rebelles burundais depuis plus de 2 mois à l'est de la République démocratique du Congo. Les soldats sont en train d'être sélectionnés dans la première, deuxième et troisième division. Plus de détails avec Benny Axelakan.
Ces militaires sont en train d'être rassemblés dans les différentes positions du 111e bataillon d'infanterie Kangatumba sous le commandement du lieutenant-colonel Mboni Eze dans le 212e bataillon commandant en opération depuis plus de 2 ans dans la réserve naturelle de la Lukoko. Dirigé par le lieutenant-colonel Nyandri et au sein des 310e et 320e brigades de la 3e division, comme le révèle des sources de la radio Inzamba au sein de l'armée burundaise. Les mêmes sources font savoir qu'ils rassemblent ces militaires pour avoir l'effectif nécessaire du renfort et de récomplètement de ceux qui ont péri sur le champ de bataille et des blessés de guerre dans des combats qui se déroulent pendant plus de 2 mois dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fidji et Uvira dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Des combats qui opposent l'armée burundaise des Imbonerakure et ses alliés aux combattants des mouvements Red Tabara, le FNL d'Aloïs Ndabamema et des Mai Mai alliés aux rebelles burundais. L'effectif de plus de 50 militaires et Imbonerakure se compte parmi les blessés et ceux qui sont déjà tombés sur le champ de bataille. Ceux qui sont déjà rassemblés sont toujours prêts à franchir la frontière à n'importe quel moment. À la rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe, nous avons essayé de joindre par téléphone le colonel Floribert Villereke, porte-parole de l'armée, pour apporter de plus amples ajouts sur les révélations de ces militaires, mais sans succès. L'armée burundaise a déjà donné sa position en niant toute implication dans des combats qui se déroulent en République démocratique du Congo à travers la dernière communication du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Alain Trubert Mutabazi.
Merci Benny Axela. Trop c'est trop. Il est temps que le président de la République intervienne pour mettre fin à leur calvaire. Il s'agit des demandeurs de documents de voyage au bureau de la police de l'air, des frontières et des étrangers, la PAF. Ils dénoncent le désordre, la corruption et le favoritisme qui caractérisent le service chargé de délivrer le passeport et les laisser passer depuis plus de 3 mois. Le fait que cette situation persiste, durcissant davantage la procédure d'obtention de ces documents, les révolte. Georges Nimenya.
Fatigué et résigné après une longue attente pour l'obtention des laissez-passer sans succès, cet homme désespéré s'en remet aux hautes autorités du pays. Il raconte les problèmes rencontrés en cherchant vainement son document.
Après 2 mois d'attente de mon laissez-passer, j'ai abandonné parce que je n'en pouvais plus et je n'y pouvais rien. Les policiers compliquent la procédure.
Cette autre personne habite en province. Elle aussi n'a pas encore pu avoir son passeport. Bien qu'elle ait déjà attendu longuement et surtout dépensé beaucoup d'argent tiré de ses maigres moyens.
Il m'a fallu 2 semaines pour avoir un formulaire de demande de passeport. Tu peux passer encore 1 semaine sans avoir la possibilité de le déposer. Et là aussi, ce n'est pas gratuit. Moi, j'ai eu droit à un reçu après avoir donné plus de 100 000 francs burundais de pot de vin. J'ai encore dû payer 150 000 francs pour avoir mon passeport parce que je voulais que ce soit rapide. Mais 2 mois après, toujours rien.
Ces demandeurs de documents demandent au président de la République d'entendre leur écrit et trouver une réponse à leurs préoccupations.
Nous sollicitons le concours du président de la République pour que nous puissions obtenir ce à quoi nous avons droit. Cela nous rend vraiment la vie difficile puisque ça nous empêche d'aller chercher du travail à l'étranger. Que ce cri arrive au président de la République pour qu'il se penche sur la question. Comme cela, il n'y aura plus d'obstacles dans l'obtention des passeports pour ceux qui veulent aller se faire soigner, étudier à l'étranger. Sinon, la situation est catastrophique.
La radio Izambarate Akawe a cherché au téléphone le général Maurice Patient Bonima, commissaire général de migration, mais il était injoignable.
Inzamba. Les manifestations organisées ce samedi à Bruxelles par les Burundais vivant en Europe contre les crimes du CNDD-FDD ont été un cauchemar pour Évariste Ndayishimiye. Le chef de l'État l'a dit dimanche soir à l'aéroport de Bujumbura au moment où il y rentrait de la Belgique. Il venait de participer au 6e sommet des chefs d'État de l'Union européenne et Union africaine. Évariste Ndayishimiye explique que tous les Burundais exposent librement leurs problèmes dans le pays pour trouver solution. On l'écoute.
Nous déplorons certaines choses comme de voir qu'il y a encore des Burundais qui souhaitent le mal pour leur pays. J'ai été déçu de voir un membre du CNL comme mobilisateur. Le fait de manifester devant la communauté internationale contre la levée des sanctions contre le Burundi, un membre de ce parti qui commet une faute sans inquiétude, cela montre qu'il a été mandaté par sa formation politique. Espérons que le parti CNL nous dira l'attitude qu'il va adopter face à ces membres qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur pays. Nous invitons tout parti politique qui a une quelconque question de la soulever, car nous organisons toujours des réunions dans toutes les provinces du pays. Chaque personne a le droit de dire ce qui ne va pas dans le pays, car nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de nous exprimer librement pour trouver une solution au problème.
Vital Chimilimana, le président du FOSC, qui a pris part à ces manifestations, explique que ces manifestations ne pouvaient pas être bien accueillies par Évariste Ndayishimiye parce qu'il dénonçait des crimes orchestrés par son pouvoir. Pour lui, rien d'étonnant de voir Évariste Ndayishimiye qualifier ses manifestants d'ennemis du pays, car il portait un message de nombreuses familles endeuillées par le pouvoir CNDD-FDD. Vital Chimilimana.
Nous avons demandé et insisté sur la nécessité de l'arrêt de la violence et des crimes contre l'humanité en cours au Burundi. Ce message doit être entendu par Évariste Ndayishimiye, faute de quoi nous continuerons à dire que son gouvernement et sa personne elle-même ne sont pas constitutifs d'un président normal et qui peut aujourd'hui s'asseoir à côté d'autres chefs d'État, notamment dans des réunions de grande importance, quand on commet des crimes. Nous continuerons à revendiquer la justice et à revendiquer la lutte contre l'impunité au Burundi tant que les crimes persisteront. Donc, Évariste Ndayishimiye a grand intérêt à redresser la situation, à arrêter la violence et les violations massives des droits de l'homme qui se commettent au Burundi. C'est de cette manière qu'il pourra être considéré comme un chef d'État normal. Et le fait de pointer du doigt le CNR, c'est un porte-à-faux parce que le CNR n'a pas organisé une manifestation. Ce n'est pas les responsables du CNR qui travaillent à Bujumbura ou dans d'autres partis du Burundi sont venus organiser des manifestations et nous considérons que ce discours, c'est une intimidation parce que le président de la République, tout comme d'autres responsables, pense que aujourd'hui personne ne peut rien faire contre la volonté du CNDD-FDD ou des autorités au pouvoir.
Beaucoup de Burundais en exil, moi-même y compris, nous aimerions rentrer au pays, mais nous craignons l'insécurité qui règne encore et cette insécurité n'épargne pas les Burundais qui rentrent d'exil. Voilà le message que Pierre Claver Mbonimpa, président de la ProDH, a donné au président Évariste Ndayishimiye samedi dernier lors de sa rencontre avec des Burundais vivant en Belgique et dans les environs. Pierre Claver Mbonimpa a même fondé ses arguments sur le dernier rapport de la CNIDH qui fait état de la persistance de beaucoup de crimes graves au Burundi. Il dit qu'il est difficile de rentrer aujourd'hui aussi longtemps que la situation restera comme telle.
La commission CNIDH qui venait de présenter ce rapport devant l'Assemblée nationale, ils ont accepté qu'ils ont constaté que 48 personnes ont été tuées par les institutions du gouvernement. Et alors, ces 35 ont été enlevés et ils ont disparu complètement. Alors, je lui ai dit, voilà, au moment où des gens continuent à être assassinés, être enlevés, vous demandez à ce que les réfugiés rentrent, comment voulez-vous qu'ils puissent rentrer alors qu'il y a des tueries et que même quelqu'un de la diaspora rentre, on le découpe, on le tue. J'ai donné l'exemple. Alors j'ai dit, moi-même je pourrais rentrer, mais dis-moi comment je peux rentrer au Burundi au moment où mes bourreaux que je connais, que vous connaissez vous-même, n'ont pas été poursuivis, ils sont toujours là. Comment voulez-vous que les réfugiés rentrent alors qu'ils voient que même ceux qui rentrent sont tués ou enlevés? Je lui ai posé cette question dans son sens. La commission a sorti un rapport montrant qu'il y a des tueries, qu'il y a des enlèvements, qu'il y a des disparitions. C'est pourquoi j'ai posé la question au président, qu'est-ce que vous allez faire avec ce rapport? Nous attendons, nous pouvons attendre et que nous verrons dans les mois à venir ce qu'il va faire avec ce rapport. En fait, lui, il donne de bonnes réponses, mais je lui ai dit que souvent, qu'il prononce de bons discours, qu'il fait des promesses, mais qu'il n'y a pas de suite.
Pierre Claver Mbonimpa clarifiait ainsi son message après la récente rencontre en Belgique entre le président Évariste Ndayishimiye et des Burundais vivant en Belgique, rencontre dont le défenseur des droits humains faisait partie. Une certaine opinion avait fait croire que Pierre Claver Mbonimpa se préparait pour rentrer au pays.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoui.
Le colonel Poncien Bali Tonda est toujours détenu dans la prison de Bubanza, 14 mois après la décision de sa mise en liberté par la chambre de conseil de la cour d'appel de Muha. C'était au mois de décembre 2020, une situation qui alerte les hommes de loi. Pour maître Gustave Niyonzima, le maintenir en prison est une décision politique, car aucun indice de culpabilité et de nouveaux éléments à son égard n'ont toujours pas été évoqués par la cour. On l'écoute.
À titre de rappel, il a été libéré par les chambres de conseil du tribunal de grande instance de la cour d'appel de Muha. La cour d'appel de Muha a pris la décision de le libérer en date du 24 décembre 2020. Mais rien n'a été fait pour le libérer. Il a été maintenu en prison pour des mobiles politiques et du délit de justice. Et les audiences publiques à son égard ont été annulées en avançant des arguments fallacieux comme quoi il y a un autre co-prévenu ayant le même dossier qu'il fallait rejoindre alors que la responsabilité en matière pénale est individuelle conformément à l'article 18 du Code pénal. La responsabilité est individuelle en matière pénale conformément à l'article 18. Pourquoi joindre les deux dossiers alors que les faits et droits ne sont pas les mêmes dans les dossiers? Donc, trois audiences publiques ont été annulées à son égard pour ces raisons si mentionnées qui me semblent fallacieuses. En date du 19 octobre 2021, en date du 4 novembre 2021, en date du 28 novembre 2021, toutes ces audiences publiques ont été annulées. On voit que les autorités pénitentiaires veulent le maintenir en prison afin qu'il crève là-bas. Il souffre d'une maladie chronique, la goutte, à telle enseigne qu'il y a besoin de soins intensifs chaque semaine, mais Les autorités pénitentiaires ne l'entendent pas de cette oreille. Peut-être il est victime de son identité d'être un Tutsi ex-membre des forces armées burundaises. C'est vraiment horrible. On interpelle les autorités judiciaires afin de le libérer, ainsi que la communauté tant nationale qu'internationale. C'est un dossier louche, vide du droit, vide de la réalité juridique. C'est un dossier politique.
Les agriculteurs de la zone Lugazi en commune et Kabarore de la province Kayanza se lamentent. Ils disent qu'ils n'ont pas encore obtenu l'engrais chimique de type FOMI, alors qu'ils l'ont déjà payé. Ils risquent d'être en retard par rapport à la prochaine saison agricole. Si le mois de mars arrive avant qu'il ne soit servi, Christine Kaniwabo pour les détails.
Les lamentations de ces agriculteurs sont fondées sur le fait qu'ils ont payé des avances depuis le mois de décembre dernier pour obtenir l'engrais, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été servis. Cet engrais fabriqué à Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, transite au chef-lieu de la province Kayanza avant d'être distribué dans les communes qui, à leur tour, les acheminent dans les zones au profit de la population. Les habitants de la zone Lugazi disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore eu l'engrais, alors qu'ailleurs, dans les zones, ils ont été servis.
Pour n'importe quel type d'engrais, on paye une avance de 5000 francs burundais. Le reste, tu le payes après et on te donne les bons qui te permettront d'avoir l'engrais. Après avoir payé l'avance de 5000 francs, tu devras encore débourser entre 21 et 24 000. Tout dépend de la qualité de l'engrais. Il y a aussi la chaux pour laquelle tu payes une avance de 1000 francs. Et si tu l'obtiens, tu rajoutes encore 5000 francs. Le problème que nous avons, c'est que l'échéance à laquelle nous devrions avoir l'engrais a expiré. Nous devrions l'avoir eu au mois de janvier. L'autre problème, c'est que l'engrais arrive au compte-gouttes. Pour le stock provincial de Kayanza, l'engrais vient de Mutimbuzi et après, il est distribué dans les autres communes. Ici, en zone Lugazi, nous ne sommes pas servis comme il faut. On amène de petites quantités qui ne satisfont pas la population.
Ce qui inquiète les agriculteurs, c'est que si le mois de mars arrive sans avoir l'engrais, ils seront en retard avec la prochaine saison culturelle.
En ce qui est des agriculteurs, ils travaillent à perte. Les pommes de terre sont plantées au mois de février pour que la saison sèche ne les abîme pas. C'est-à-dire que si la saison sèche arrive avant la maturation des pommes de terre et des haricots, il n'y aura pas de récolte. Si vous plantez au mois de mars, c'est sûr que vous n'aurez rien. Nous avons payé des avances au mois de décembre, nous n'avons pas été servis jusqu'à présent.
La rédaction de la radio Inzamba a cherché par téléphone Belkiman Sagouye, administrateur de la commune Kabarore. Nous n'avons pas pu le joindre pour qu'il s'exprime là-dessus.
De Bubanza cap sur Rumonge, avec la pénurie du sucre qui continue à se manifester dans cette ville de Rumonge. Pourtant, la Sosimon avait récemment distribué 25 tonnes de sucre dans cette province. La population demande aux autorités administratives de suivre de près ceux qui ont reçu ce produit, car il manque toujours dans les boutiques et les autres points de vente. Le point avec Raoul Nguengurutse.
La société sucrière du Mosso Sosumo avait sorti la semaine dernière un calendrier de distribution du sucre par province. Les habitants de la province Rumonge avaient gardé l'espoir qu'ils allaient enfin avoir du sucre au prix bas. Selon les informations recueillies de cette province, 25 tonnes de sucre ont été distribuées aux grossistes de la province de Rumonge vendredi dernier. 4 grossistes seulement ont distribué le sucre à la population qui s'était déplacée pour l'acheter. Des sources à la Sosumo parlent de 11 grossistes qui ont été servis en province de Rumonge. Ce sucre devrait être donné aux commerçants pour qu'ils en vendent à leur tour à la population locale. Les habitants de la province de Rumonge expliquent que peu de grossistes ont effectué cette distribution. Selon eux, c'était une manière de masquer sa fuite. En même temps, certains grossistes sont enregistrés plus d'une fois selon les mêmes sources à la Sosumo. Jusqu'à ce lundi, le sucre était encore devenu rare dans cette province. Des sources concordantes soulignent que le sucre est exporté vers la République démocratique du Congo par des ténors du parti CNDD avec la complicité de certains administratifs de la province de Rumonge. Les habitants dénoncent cette mauvaise pratique.
Terminons par le sport. L'équipe nationale de football féminin s'est qualifiée ce lundi pour la phase finale de la CAN prévue au Maroc du 2 au 23 juillet 2022. Au basketball, Ounani est invaincu après 4 matchs des éliminatoires de la Ligue nationale de basketball. Valérie Mucho.
11 buts marqués en 2 matchs, les footballeuses burundaises ont largement pris le dessus face aux Djiboutiennes. Des rencontres comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN féminine. Les 2 matchs aller et retour se sont déroulés au Burundi, le stade de Djibouti étant en rénovation. Lors du match retour qui s'est déroulé au stade Urukundo de Bouillé ce lundi, les joueuses du Burundi ont réédité leur domination avec une victoire sans appel de 5-0, avec un triplé signé Aniela Uimana. Au match aller, elles avaient marqué 6-1. Le Burundi sera alors au Maroc du 2 au 23 juillet pour disputer la phase finale de la CAN féminine. Pour arriver à ce stade de la compétition, Djibouti a éliminé le Rwanda par forfait et le Burundi a sorti l'Érythrée des éliminatoires. Le coach des Inhamba Murugamba féminin a indiqué qu'il remercie ses joueuses qui viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Burundi après les hommes en 2019. Il indique que la tâche s'annonce difficile, mais qu'ils vont mettre en place des stratégies afin de ne pas faire de la figuration au Maroc. Il compte avec son staff identifier toutes les joueuses burundaises qui évoluent à l'étranger dans le but de les intégrer en sélection nationale, s'entraîner avec elles et garder celles qui le méritent. Après cela, il indique qu'il demandera à la Fédération de football du Burundi d'organiser beaucoup de matchs amicaux afin de les aguerrir. Une stratégie qui leur permettra d'être fin prête pour le rendez-vous de juillet au Maroc. Au basketball, le club d'Ounani a battu les Hippos par 84 points à 67. Ounani reste la seule équipe invaincue des éliminatoires, comptant pour la phase finale de la Ligue nationale de basketball après 4 journées. Et dans le but de motiver les joueurs de cette équipe qui a l'objectif de jouer la Basketball Africa League l'année prochaine, un prix d'une moto d'une valeur de 4 millions de francs burundais est octroyé chaque mois à un joueur d'Ounani qui s'est très bien comporté. Le premier à avoir gagné ce prix et Landrine Dikoumana.
Voilà, c'est avec toi Valérie Mucho que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gate Kakawe pour la production de ce journal. Merci à vous tous, auditrices, auditeurs, pour votre aimable écoute et votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.